Alors, je vois une question dans le chat et Abdel lève la main. Alors, Abdel, je vais vous donner la parole ou peut-être vous ouvrez directement le micro si ça marche.
Ils peuvent ouvrir directement leur micro.
Oui, c'est bon.
Ok.
D'abord, merci pour cette présentation qui était très instructive et bien appréciée. Et j'avais une question, moi, par rapport à cela. Comment, alors, dans une société actuelle, dans un monde de finance et de commerce, on dirait orienté capitalisme, comment la morale islamique, mais comment une entreprise qui se crée pourrait faire face et survivre face à cette présentation que vous avez eue, avec les règles à suivre, notamment le dernier point où on parlait de développement durable. Comment une entreprise pourrait exister en tant que telle?
En fait, moi, j'aurais une question, c'est par rapport à la finance. Donc, vous avez parlé durant donc, votre présentation à l'époque du prophète qui avait des créanciers et des débiteurs. Ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est est-ce qu'à l'époque du prophète, il y avait aussi les termes d'intérêt par rapport à cela? Est-ce que ça existait déjà à cette époque-là où les intérêts sont venus par la suite?
Alors, je vais essayer d'être concis. Et puis, si après, ce n'est pas suffisant, vous n'hésitez pas à demander l'éclaircissement. Je fais le lien avec une question dans le chat aussi. Selon vous, comment pourrait-on intégrer des critères moraux au bilan des entreprises? Et en plus, il me coupe l'herbe sous le pied, puisqu'entre parenthèses, il est écrit autre que la société à mission SVP. Donc, la première question, c'était comment est-ce qu'on fait à partir de ces principes, finalement, pour les incarner et les mettre en pratique, qui est donc lié avec cette question de comment intégrer des critères moraux dans des entreprises. Et la question des intérêts à l'époque prophétique. J'ai envie de dire que cette incarnation des valeurs et des principes est tout d'abord individuelle, c'est-à-dire que l'éthique, la morale, on l'a dit, hein, c'est le caractère, c'est les mœurs. Donc en fait, c'est souvent incarné parce que même les entreprises, je veux dire, les entreprises sont composées d'humains. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est le capital, hein, qui régit, mais on a tendance à l'oublier, c'est l'humain. Donc il faut, quoi, il faut. C'est à chacun d'adopter les principes éthiques. Moraux, d'incarner ces valeurs. Et donc, c'est important de ce point de vue-là de se connaître, de connaître ces valeurs, de connaître ces principes, donc se connaître autant dans son héritage culturel, cultuel, que dans sa nature d'être humain, du fitra. Des racines et des chemins, par exemple, pour l'association. Moi, vous savez, une fois, j'avais une réflexion comme ça. Je suis à Marseille, il y a beaucoup de Mistral, et je voyais les arbres qui étaient surpris par le vent. Et je me disais que pour pouvoir tenir, eh bien, il fallait qu'ils aient des racines profondes. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que finalement, plus, en fait, c'est à la profondeur des racines que l'on mesure la grandeur de l'arbre. C'est-à-dire que plus les racines sont profondes et plus l'arbre va être grand. Et en fait, ça, on peut l'appliquer aux humains. C'est-à-dire que c'est à la profondeur de nos racines, c'est-à-dire le fait de se connaître intérieurement, de connaître nos valeurs, qu'on va pouvoir grandir et nous élever. Donc, pour répondre à la question, pour moi, c'est aux entrepreneurs, c'est-à-dire les gens qui créent des entreprises, qui diffusent la culture de leur entreprise, d'incarner ces principes et ces valeurs de justice, de compassion, d'entraide, de véracité, de respect des engagements, de l'éthique des affaires au final. Donc ça, c'est pour répondre à la première question. J'avais dit que je serais concis, mais désolé. Mais bon, c'était bien l'analogie avec l'arbre, je pense que c'est important. C'est important. La question de l'intégration des bilans, il y a un peu une convergence qui se fait aujourd'hui, hein, avec les critères, ce qu'on appelle extra-financiers, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ce qu'on appelle l'ESG. Maintenant, dans les pays musulmans, on a en plus de ça des entreprises qui payent la zakat, par exemple, qui redistribuent une part de leur richesse à des œuvres de bienfaisance. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut être assez imaginatif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut répondre aux crises, en tout cas, c'est la découverte que j'ai faite dans une recherche récente. C'est pas forcément par plus de dettes qu'on y arrivera, parce que souvent, la solution, à chaque fois qu'on a une crise, on rajoute de la dette à de la dette, mais finalement, la dette a beaucoup d'effets pervers. Je pense qu'il faut appliquer ce mécanisme qu'on retrouve dans l'économie islamique, qui est celui de la zakat, et c'est de taxer le capital, en fait. Et je me suis aperçu donc que, si vous voulez, aujourd'hui, on a une richesse mondiale, c'est à peu près 460 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale, un peu plus de 50% qui est du financier. Il manque à peu près 3 500 à 5 000 milliards de dollars par an pour éradiquer la faim dans le monde, préserver les écosystèmes et les océans et assurer un accès à l'eau potable pour tous. D'accord ? 3 500 à 5 000 milliards par an. C'est l'ONU qui le dit hein, dans le dernier le rapport 2020 de l'atteinte des objectifs de développement durable. Ça représente moins de 2,5% de la richesse financière mondiale. Donc en fait, il suffirait de taxer le capital à hauteur de 2,5% par an pour pouvoir financer intégralement l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc techniquement, il y a les ressources pour le faire, largement. Donc ça, c'est un point, qui me semble pertinent de garder à l'esprit et d'étudier et de mettre en avant, parce que souvent on nous dit oui, la solution c'est de vous endetter encore plus, c'est de faire encore plus de dettes, alors qu'en vérité le capital il est bien présent, il est déjà existant, et les ressources sont présentes, et donc en fait il ne tient qu'aux humains, s'ils le souhaitent, de pouvoir établir une société qui soit plus juste et plus respectueuse de la dignité humaine. En fait, là, c'est de ça dont il s'agit. Il y a à peu près 750 millions de personnes qui vivent avec moins de 1,5 $ par jour aujourd'hui à la surface de la Terre. Troisième question, la question de l'intérêt à l'époque prophétique. Alors, en arabe, c'est riba, hein, le terme. Donc, c'était pas intérêt, c'était riba. Maintenant, dans la jurisprudence, le terme de riba a le sens de surplus, d'usure, et d'intérêt, quand on le traduit. Maintenant, j'ai envie de vous dire, même les Grecs, hein, ils détestaient l'intérêt, et à l'époque, donc on n'est pas au 7e siècle, on n'est pas au temps prophétique, c'est Aristote. Hein. L'Aristote, il disait, l'intérêt, c'est de l'argent né de lui-même, et de la manière pour acquérir de la richesse, c'est la plus détestable et c'est la plus contre-nature. Aristote, hein, c'est-à-dire, il n'a même pas le Coran, hein, lui, hein. Il n'a pas la révélation, il a de la réflexion. Il réfléchit sur le réel. C'est un philosophe. Et il nous dit quoi? Il nous dit pourquoi c'est contre nature? Il dit c'est contre nature. Et donc, moi, j'ai essayé de me dire, de réfléchir, de dire pourquoi Aristote dit que c'est contre nature l'intérêt? Parce que là, c'est l'intérêt. Hein. Eh bien, pourquoi c'est contre nature? Parce que dans l'univers, rien n'arrive à surmonter l'épreuve du temps. C'est-à-dire que tout est détruit par le temps, ou modifié. La seule chose, la seule entité qui arrive à surmonter l'épreuve du temps, bah pour quelqu'un qui est croyant, c'est Dieu. Et pour quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est absolument personne. Et le problème de l'intérêt, c'est que premièrement, il n'existe pas. Il n'a pas été créé, il n'existe pas dans l'univers. C'est quelque chose qui est immatériel, qui a été inventé par les humains. Et contrairement à tout ce qui existe dans l'univers, quand on lui applique le temps, eh bien, il tend inexorablement vers l'infini. Même si on prend un tout petit taux d'intérêt, hein, 1,0001%, vous appliquez le facteur temps, eh bien, votre capital il se transforme en l'infini. Donc, les humains ont donné un attribut divin d'infinité à l'une de leurs créations. Et ça, c'est une faute logique, voire même rationnelle. Puisque qui est infini? Bien, pour un croyant vous dira Dieu. Et il n'y a que Dieu qui est infini. Et pour un non-croyant, le non-croyant vous dira personne. Sauf qu'aujourd'hui, bah, ce qui est infini dans son mécanisme, c'est l'intérêt. Et on est dans un système qui est entièrement régi par cette notion d'intérêt et de profit infini. Mais on voit ce que ce système a conduit comme destruction de la nature et du vivant et de surexploitation des ressources, etc., etc. On voit très bien, hein, il y a un rapport Meadows dans les années 70 qui disait que la croissance infinie, c'est pas possible dans un monde fini. Et le mécanisme de l'intérêt, bah, il est complètement irrationnel. Donc cette question de dire est-ce que le riba c'est l'intérêt au temps du prophète, etc. Il faut se dire que en fait oui, bien sûr que l'intérêt c'est du riba, mais il y a également d'autres éléments qui sont aussi du riba. Par exemple, on a un hadith qui dit que tromper un nouvel entrant sur le marché, eh bien, c'est du riba. C'est-à-dire, je profite de l'ignorance de ma contrepartie, donc d'une asymétrie d'information pour pouvoir m'enrichir à son détriment. Autrement dit, je vais le plumer, je vais l'arnaquer, je vais réaliser un gain sur lui juste parce que j'ai une asymétrie d'information. Autrement dit, moi, je connais les prix du marché, lui les ignore et donc j'en profite. Eh bien, ça, c'est du riba. Quelqu'un qui manipule le prix de vente dans une enchère, c'est-à-dire qui fait monter le prix parce qu'il est de connivence avec le vendeur, c'est aussi du riba, suivant le hadith. Donc la manipulation des cours, ben, c'est également du riba. Donc c'est aussi de l'usure. Donc en fait, cette notion d'usure, elle est très large, mais on peut considérer que c'est une forme de gain injustifié qui repose à un moment donné sur une asymétrie. Voilà, j'ai répondu aux trois questions. S'il y en a d'autres ou des réactions par rapport à ces réponses, je vous écoute. Alors, je vois une autre question. Une entreprise éthique peut-elle rester viable dans ce système capitaliste? Moi, j'aurais envie de vous dire, Sidi, est-ce que ce système capitaliste peut-il rester viable dans un système éthique que les humains vont tenter de construire? Parce que c'est ça, le système capitaliste lui-même n'est pas viable, en fait, en tout cas tel qu'il existe. C'est aujourd'hui, tout le monde s'accorde à le dire. Donc je dirais que l'éthique, c'est l'avenir, en fait, si on veut être un tant soit peu positif. Parce que sinon, ça voudrait dire que ben voilà, on court droit à la catastrophe, et après cette catastrophe, il y aura le déluge. Des remarques, des questions, j'ai déjà répondu à la question de Sidi. Non, c'était
tu n'écris pas à tout le monde.
J'avais une question, bonjour. Est-ce qu'il y a des pays où ces principes sont appliqués? La deuxième question, est-ce que ces principes sont appliqués à l'intérieur de la famille, en particulier par rapport aux questions d'héritage, au moins ce qu'on en comprend via les médias? Ou ça n'a pas l'air simple?
On n'a pas de message à tout le monde. Oui, mais attends, je vais...
Alors, merci pour ces deux questions. Alors, est-ce qu'il y a des pays où c'est appliqué? Alors, vous savez, il y a des chercheurs, ils ont créé un index qui s'appelle Islamicity Index. Autrement dit, ils ont fait un classement des pays en fonction de leur degré d'application des principes islamiques. Et je crois que le premier pays, c'est la Finlande ou la Nouvelle-Zélande. Le premier pays musulman dans le classement, il est en 44e position, c'est les Émirats Arabes Unis. Autrement dit, les pays musulmans sont ceux à appliquer le moins bien les principes islamiques. D'accord ? Ça s'appelle Islamicity Index. Vous pouvez chercher sur Internet, c'est assez instructif et intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des pays qui les appliquent? Oui, mais ce ne sont pas des pays musulmans. En tout cas, les premiers pays à appliquer ces principes de justice sociale, d'équité, de transparence, ne sont pas les pays musulmans qui sont les premiers à les pratiquer. Donc ça, c'est la première réponse, un peu surprenante, mais c'est le cas. Maintenant, la question de l'héritage. On oublie souvent, dans cette question de l'héritage, de la considérer dans son ensemble. On dit, oui, alors, dans le Coran, il est écrit qu'une héritière femelle hérite une part, alors que l'héritier mâle hérite deux parts. Et donc, il y a une inégalité homme-femme qui est injuste. Grosso modo, c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, que il y a deux éléments. Premièrement, c'est pas une question de homme-femme. Il y a des cas où il y a des femmes qui héritent plus que les hommes. Et il y en a de nombreux. J'ai pas le chiffre là, mais j'ai lu un bouquin là-dessus. C'est des dizaines de cas où il y a des femmes qui héritent plus que des hommes. Donc c'est pas une question de homme-femme. Maintenant, si on regarde le droit islamique dans son ensemble, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un point de vue naturel, la nature a donné plus de force aux hommes qu'aux femmes. Et donc, les humains étant injustes, eh bien, les hommes utilisent la force qu'ils ont en plus pour oppresser les femmes. Ça, c'est un fait. D'accord ? C'est-à-dire, moi, je pèse 30 kilos de plus que mon épouse. Si on décide de se battre, forcément, je vais avoir l'avantage. Donc, le droit islamique part de ce décalage en disant il y a une inégalité physique et donc il faut compenser cela. Autrement dit, il faut donner des droits supplémentaires aux femmes pour pouvoir réinstaurer cette égalité. Ça, c'est le premier point. Comment ? Ben, en disant aux hommes, écoutez mes cocos, la responsabilité de vos foyers, de l'entretien de vos foyers, c'est-à-dire de votre épouse, de vos enfants, elle est sur vos épaules. C'est vous les hommes. Donc c'est vous qui allez... c'est votre responsabilité, c'est votre devoir.
Comme raisonnement, hein.
C'est sur vos épaules. Deuxièmement, si une femme travaille, c'est son choix, tout ce qu'elle gagne, c'est pour elle. Vous les hommes, là, vous avez le devoir de les entretenir, c'est-à-dire que toutes les charges liées à l'entretien du foyer, c'est sur vos épaules, et si elle travaille, qu'elle gagne de l'argent, c'est que pour elle. Si elle a envie de mettre dans le foyer elle-même, mais elle n'a pas à le faire, c'est à vous de le faire.
Donc il n'y a pas de femme qui entretient.
D'accord, donc il y a beaucoup plus de charges financières qui reposent sur les épaules des hommes. Et dans le cas du frère et de la sœur, dans un héritage, eh bien, tant que la sœur n'est pas mariée, eh bien, le frère va devoir assumer la charge de sa sœur. C'est-à-dire que lui, en fait, il va devoir utiliser sa part d'héritage au service de sa sœur, alors que la sienne va rester intacte.
Enfin, elle est considérée comme une mineure, elle n'a aucun pouvoir, quoi.
Le problème, c'est que très souvent, on n'applique pas dans la totalité. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont injustes, il y en a beaucoup des hommes injustes, qu'ils soient musulmans ou pas, et qui profitent. Ils prennent, comme on dit, on veut les droits, mais on ne veut pas assumer les devoirs. Et donc, effectivement, si on regarde juste, il a droit à double part, elle a droit qu'à une part, c'est injuste. Surtout s'il n'assume pas ses devoirs. Et là, j'en profite pour rappeler quelque chose aussi, au sujet de la condition des femmes en islam. Et ça, c'est mon ijtihad, hein, c'est ma réflexion, c'est mon effort d'interprétation. Au 7e siècle, la femme musulmane, dans la société méditerranéenne, hein, du temps du prophète, salam, non seulement elle avait son patrimoine propre, elle avait le droit de divorcer. On a même des cas où on a des femmes qui demandent le divorce parce que le mari ne la satisfait pas. Donc vous voyez un peu l'ouverture, hein. On est au 7e siècle. Donc ça veut dire quoi ? Droit à l'héritage, patrimoine propre. En France, les femmes, je crois qu'elles ont eu le droit d'ouvrir un compte bancaire, c'était genre dans les années 50 ou un truc comme ça.
80.
Donc là, on parle du 7e siècle. Donc, moi, mon analogie, c'est de dire que si la condition des femmes au 7e siècle, la condition de la femme musulmane au 7e siècle, c'est la meilleure à la surface de la Terre, et je pense que c'est le cas, eh bien, cela veut dire que la condition de la femme musulmane de tout temps doit être la meilleure. Voilà. Voilà, c'est ça ma conclusion. Et si on regarde cette question de l'héritage, il faut la regarder dans son ensemble. Et à ce moment-là, ça veut dire que les hommes, ils doivent remplir leur part. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où il est très difficile de vivre avec un seul revenu. Mais ça, c'est la force des choses aussi, c'est parce que la matière l'a emporté sur l'esprit. C'est-à-dire que comme on est dans le règne de la quantité, et qu'il faut de la croissance, il faut du PIB, il faut de la consommation, etc., bah à ce moment-là, il faut que hommes et femmes travaillent. Parce que si on arrive à faire travailler les femmes, ou les hommes, hein, peu importe, mais bon, en l'occurrence, c'est là, c'est si on arrive à faire travailler les femmes, eh bien, on fait x2 hein, au niveau du PIB. Donc il y a aussi des logiques économiques qui sont à l'œuvre. J'espère que ça répond aux deux questions.
Merci.
Je sais pas.
Bon. Je sais pas. En tout cas, je peux vous faire part d'une réflexion à ce sujet, sur la rareté. Il y a un astrophysicien, je crois que c'est Hubert Reeves, qui nous a dit qu'à l'échelle de l'univers, il y avait moins d'eau que d'or. Puisque de l'eau, jusqu'à preuve du contraire, il n'y en a que sur Terre. Alors que de l'or, on en trouve ailleurs. Hein. Donc à l'échelle de l'univers, il y a moins d'eau que d'or. Donc ce qui veut dire qu'à l'échelle de l'univers, si on applique cette loi qui est ce qui est rare et cher, eh bien l'eau est plus précieuse que l'or.
Hélas.
Et pourquoi ? Ben parce que, en plus de ça, ce qui est magnifique, c'est que tout le vivant est composé majoritairement à base d'eau. Puisque nous, on est composé à 70-80% d'eau, pareil pour les animaux, les végétaux.
D'or, on serait plus précieux.
Et donc, finalement, on peut considérer que c'est un signe du Créateur pour nous faire comprendre que la vie est ce qu'il y a de plus précieux dans l'univers. Et preuve en est, la vie, eh bien, elle est faite dans la matière la plus précieuse qui soit, la plus rare, c'est-à-dire l'eau. Et nous, les musulmans qui faisons nos ablutions plusieurs fois par jour avec de l'eau, eh bien, là aussi, on voit finalement comment, même pour faire nos ablutions pour prier, on utilise finalement le matériau le plus noble, le plus rare et le plus précieux qui soit, qui est l'eau. Et le problème, c'est que bah, les humains, ils ont oublié un peu tout ça, et ils se battent pour l'or, ils se battent pour l'uranium, ils se battent pour des matières sans vie, et ils ne respectent pas la vie, qui pourtant est ce qu'il y a de plus précieux. Et ça, je pense que c'est un des enseignements qui j'en suis certain même, hein, qui est porté par l'ensemble, j'irais, des prophètes et des sages. Donc sur la notion de rareté, voilà ce que je pourrais vous dire.
Vous enseignez à Aix-Marseille. Vous parlez des étudiants. Ils sont inscrits dans quel cas, dans quel...
Alors, je vois les questions là qui arrivent dans le chat. Il y a une question sur l'actualisation. Je réponds à votre question, Philippe, et puis je rebondirai. C'est une question qui me taraude, que je vois dans le chat. En fait, j'ai commencé à enseigner la finance islamique à la fac de droit de Cergy Pontoise en 2014. Ils ont un master droit éthique des affaires. Donc, dans des programmes de droit et éthique des affaires, donc à Cergy Pontoise. Et puis, il y a l'IAE de Dijon en master finance. Et à la fac de droit d'Aix-Marseille en DESU, droit éthique des affaires. Après, il y a des programmes de formation spécialisés en finance islamique qui existent. Il y a un certificat qui est fait par la Grande Mosquée de Paris, par exemple. Il y a une business school, Financial Business School à Paris également, qui fait un executive MBA en finance islamique. Donc, c'est une formation plus longue, spécialisée en finance islamique. Et puis il y a des organismes de formation qui, en plus de faire des modules, je dirais, liés au management, font des modules plus spécifiques, rapprochés au Fiqh al-Mu'amalat, donc au droit musulman des affaires. Et je pense en particulier à Medine Formation en région lyonnaise. Voilà. Donc après, pour ce qui est des livres. Bon, moi j'ai un bouquin à paraître, mais il n'est pas encore publié. Il est chez l'éditeur, donc il s'appelle Islam et éthique des affaires économiques et financières. Il fait à peu près 300 pages, il est très dense. Et sinon, il y a un bouquin qui s'appelle La finance islamique, qui est un peu plus technique. Moi, c'est vraiment une vision holistique. Donc, alors le holistique, dans le sens de, j'essaie d'apporter, si vous voulez, une vision globale à 360 degrés, pour qu'une personne, lorsqu'elle lit le livre, elle ait une vision, je dirais, d'ensemble qui lui permet d'avoir une compréhension du sujet. Et puis dans la deuxième partie, j'aborde tout ce qui est la recherche qui existe dans ce domaine-là. Donc il y a un livre de Kautar Jmoussi, me semble, qui s'appelle La finance islamique aux éditions Repères. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il est très synthétique, il fait 130-140 pages, et il n'est pas très cher, il coûte 10 euros, il me semble. Donc ça, c'est bien. Bon, il est juste orienté finance islamique, alors que moi, je vous ai beaucoup parlé d'éthique et d'économie islamique également. Et il faut bien comprendre que la finance islamique et l'économie islamique sont deux disciplines différentes, voire même qui s'opposent. Alors, pour la question de l'actualisation, franchement, moi je me pose la question parce qu'on est en ce moment en phase de taux d'intérêt négatif, et même cette question de l'actualisation est remise en question par le contexte actuel. Donc même toute cette théorie financière qui consistait à déprécier le futur avec cette actualisation est remise en question. Voilà, donc franchement, c'est une question ouverte à laquelle aujourd'hui j'ai pas de réponse. Mais pour moi, ça montre un peu la faiblesse de cette théorie et de ce système qui est basé sur le taux d'intérêt. Puisque aujourd'hui, on vit une situation qui était inimaginable, impensable, ne serait-ce qu'il y a une quinzaine d'années. Parler de taux d'intérêt négatif, c'était quelque chose d'impossible. Oui. Et pourtant, c'est la réalité actuelle. Alors, pouvez-vous redéfinir l'actualisation? Je ne sais pas si à 22h15, c'est une technique qu'on utilise en finance pour pouvoir. C'est le contraire de la capitalisation. Voilà, la capitalisation, c'est je prends un capital aujourd'hui et je vais déterminer par application d'un taux d'intérêt une valeur future. L'actualisation, c'est je prends une valeur future, généralement qui est une somme annualisée de cash flow, c'est-à-dire d'argent que je vais rentrer, et je vais l'actualiser, je vais la ramener à aujourd'hui et dire ça vaut combien aujourd'hui cette somme-là. Ça me permet de comparer finalement si je préfère avoir cette somme aujourd'hui ou si je préfère l'avoir dans le futur. C'est quelque chose qui est utilisé en finance, mais qui aujourd'hui dans un contexte de taux d'intérêt négatif n'a ni queue ni tête. C'est pour ça que c'est intéressant cette question de l'absence de taux d'intérêt. Le problème, en fait, ni l'inflation ni la déflation ne sont bonnes pour l'économie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est comme le sang qui circule dans un organisme. Et donc, ce qu'il faut veiller, c'est qu'en permanence, il y ait une quantité de sang qui corresponde à la taille de l'économie. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Parce qu'il y en a trop, il va y avoir de l'inflation, il va y avoir même éventuellement avec la spéculation, vu qu'elle n'est pas interdite, il va y avoir des caillots qui vont se faire, d'accord? Et donc, s'il y en a trop, il va y avoir de l'inflation. S'il n'y en a pas assez, il va y avoir de la déflation. Et donc, en fait, il faut arriver à obtenir cet équilibre en permanence et faire croître la masse monétaire au même rythme que l'économie, que ce soit en plus ou en moins. De cette manière-là, on peut avoir une stabilité des prix. C'est ça le Graal, en fait, hein. Et c'est pour ça que le zéro, il est bien, parce que le zéro, il est stable. Alors après, si la population augmente, à ce moment-là, il faut que ça augmente, mais le problème du taux d'intérêt, c'est qu'il contribue inexorablement à l'augmentation de la masse monétaire. Et par conséquent, eh bien, on a une inflation, nécessairement. C'est tout à fait logique. L'idée, ce serait qu'il y ait création monétaire quand il y a véritablement création de richesse, c'est-à-dire l'application justement du principe du partage des pertes et des profits, et qu'il y ait destruction monétaire lorsqu'il y a destruction de richesse. De cette manière-là, ça peut s'équilibrer, et on a un mécanisme supplémentaire dans la finance islamique, qui est celui de la taxation des capitaux oisifs. C'est-à-dire pour éviter justement la thésaurisation, c'est-à-dire qu'il y ait des quantités de monnaie importantes qui ne viennent pas remplir leur fonction de pour justement financer l'économie, c'est-à-dire la monnaie ne sert qu'à échanger les biens et les services produits. Ça, c'est la conception islamique, hein, mais qui est aussi la conception aristotélicienne. C'est-à-dire la monnaie n'est pas une marchandise, c'est juste un outil d'échange. C'est aussi la conception de saint Thomas d'Aquin. On est exactement dans la même lignée, si vous voulez, en finance, en économie islamique, on est sur la lignée de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote. La monnaie n'est pas une marchandise, c'est uniquement un outil qui permet d'échanger des biens et des services. Mais il en faut. Et s'il n'y en a pas assez, ça pose un véritable problème. Donc il faut lutter contre la thésaurisation. Il y a deux choses, la thésaurisation et la spéculation. Et pour lutter contre la thésaurisation, eh bien, on taxe les capitaux oisifs. On applique un taux, c'est le taux de zakat, 2,5%. Et du coup, ça incite les personnes à ne pas thésauriser et à faire circuler l'argent. Et en fait, taxer les capitaux oisifs, c'est l'application d'un taux d'intérêt négatif. Et c'est ce que font aujourd'hui les banques centrales. Voilà. Donc, c'est assez étonnant. Et c'est l'idée de monnaie fondante de Gesell aussi qui est reprise. Hein, ça, c'est au XXe siècle. Et on a un grand économiste qui est très connu, qui est John Maynard Keynes, qui disait que cette idée, ce concept de monnaie fondante, d'un point de vue technique, était irréprochable. Et si vous voulez, ça, c'est la conception islamique de la monnaie, puisque toute monnaie oisive est taxée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la taxe ? On la reverse aux nécessiteux, c'est les bénéficiaires de la zakat. Mais si vous voulez, la sagesse dans cette taxe, elle est aussi là, c'est que ça dissuade la thésaurisation. Et ces deux fléaux contre lesquels, normalement, il faut lutter, c'est d'une part la thésaurisation et d'autre part la spéculation. Et si on arrive à mener une politique économique qui tiennent la route, eh bien, on n'a ni inflation, ni déflation. On est justement dans cette voie du juste milieu, cette voie d'équilibre. Mais l'équilibre, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est toujours quelque chose qui est en mouvement et qui est toujours très difficile à atteindre. Alors oui, je vois intéressant comme réflexion interdire la spéculation. Ça, c'est l'interdiction de ce qu'on appelle le riba al-fadl, qu'on trouve dans l'économie islamique. On a un principe qui fait que, par exemple, on va spéculer sur le blé, le cours du blé. On ne peut, si vous voulez, le riba al-fadl, c'est de dire que lorsqu'on échange des marchandises contre elles-mêmes, on doit observer soit une stricte égalité, et voire même une simultanéité. C'est-à-dire, si j'échange du blé contre du blé, je suis obligé d'échanger une tonne de blé contre une tonne de blé. Je ne peux pas échanger une tonne de blé aujourd'hui contre deux tonnes de blé dans 6 mois. Et de fait, on ne peut pas spéculer sur les matières premières. Quand on voit les ravages de la spéculation, notamment sur le blé aujourd'hui, il y a des émeutes de la faim à cause de ça. Hein. Parce que quand vous spéculez sur le blé, forcément, ça a une incidence à la fin sur le prix du pain. Et il y a des pays, les gens, le pain, c'est leur pain quotidien. Hein. Donc l'interdiction de la spéculation, c'est un vrai sujet. Et je pense que c'est un sujet qui ne concerne pas que les musulmans, hein, qui concerne tous les citoyens, quand on voit les ravages que cela fait. Alors la dernière question qui était sur la monnaie numérique, quelle est la valeur éthique de cette monnaie dans l'esprit islamique ? Ça dépend si on parle d'une monnaie numérique ou d'une monnaie d'un crypto-actif. On entend beaucoup parler de Bitcoin en ce moment, par exemple. Donc c'est toujours pareil, hein. Est-ce que c'est un outil qui permet de favoriser des échanges de biens et services, ou est-ce que c'est un outil de spéculation avec une forte volatilité où certaines personnes s'enrichissent au détriment d'autrui? Donc si c'est la première hypothèse, tout va bien, la monnaie remplit sa fonction et sa finalité. Dans le deuxième cas, c'est véritablement problématique, puisque c'est un outil spéculatif, et donc il n'y a pas de création ni de richesse, ni d'utilité sociale. Et donc là, je vois les questions qui arrivent sur les cryptos et les différences entre spéculation et commerce.
Tu pourrais pas
la spéculation. Tu peux
mettre une jolie image, un beau paysage.
Alors, la spéculation, ça vient de. J'en ai parlé dans mon bouquin. Ça renvoie, si vous voulez. Je me souviens plus le terme, je crois que c'est spéculum, mais je suis plus certain. C'est le fait de refléter une image, de renvoyer une image. Oui. Et en fait, spéculum, quelqu'un qui spécule, il n'achète pas le bien parce qu'il en a besoin, parce qu'il en a une quelconque utilité, il l'achète juste parce qu'il spécule sur la possibilité, sur le fait qu'il va pouvoir le revendre plus cher. Mais il n'y a pas d'utilité économique à cela. Et je reviens souvent à Aristote, hein, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et si vous voulez, Aristote, il a fait la distinction entre l'économie et ce qu'il appelait la crématistique. L'économie est le fait de répondre à des besoins par des échanges de biens et de services et d'apporter une utilité aux autres. Et ça, c'est très bien. Il y a une utilité sociale, ça sert à quelque chose. La crématistique, c'est l'art de faire de l'argent avec de l'argent. C'est l'art de faire fructifier un capital. C'est l'art de spéculer. Et ça, Aristote l'a condamné. Parce que le problème de la spéculation, c'est que ça fait monter les prix. Ça entretient des bulles. Et le fait que les prix soient élevés, eh bien, ça profite à une minorité de personnes qui possèdent, hein, ces biens-là, et qui ont intérêt effectivement à ce que leur valeur augmente. Mais pour la grande majorité, eh bien, c'est quelque chose de fortement négatif. Heureusement qu'on ne spécule pas sur des baguettes de pain. Et j'ai envie de dire, malheureusement, si, puisque aujourd'hui, il y a des gens qui spéculent sur la tonne de blé. Mais vous l'aurez compris, quelle est la différence entre spéculation et commerce. Vous savez très bien. La spéculation, bah, je vais réaliser un bénéfice, certes, sur une opération d'achat et de revente. Mais est-ce qu'il y a création pour autant de valeur? Est-ce que j'ai apporté quelque chose à la société? La réponse est non. C'est juste que j'ai été capable de réaliser un profit. Alors, maintenant, le trading, à l'époque, si je vais acheter une marchandise sur un marché à 3000 km, je prends tous les risques, je vais jusque là-bas, j'achète la marchandise, je la ramène, je la revends plus cher ici, ben oui, il y a création de valeur. Certes, c'est la même marchandise, mais j'ai pris, voilà, je suis allé la chercher, je l'ai ramenée, etc. Donc, il y a un profit, et le profit est légitime. Donc, cette notion même de riba, elle est aussi là, c'est quelque part la légitimité du gain. Est-ce que le gain, il est légitime ou pas? Donc, vous voyez, on revient encore dans une question éthique, une question morale, en fait. Se poser la question, est-ce que mon gain, mon profit, il est légitime? Ou est-ce que je me suis simplement enrichi au détriment d'autrui? Est-ce que mon gain, finalement, c'est la perte de ma contrepartie? Et elle est là, la limite, il me semble. Ensuite, sur la question des cryptos, les cryptos aujourd'hui, ce n'est pas des crypto-monnaies, c'est des crypto-actifs. Pourquoi? Bah parce qu'une monnaie, pour avoir la caractéristique de monnaie, il faut que ce soit une réserve de valeur. Le Bitcoin, c'est une réserve de valeur, pas de problème. Mais il faut que ce soit universellement accepté. En tout cas, c'est la définition islamique hein, de la monnaie. Il faut que ce soit universellement accepté. Il faut que ce soit soutenu par une autorité locale. Et il faut que ce soit fongible. Bon. Le problème des crypto-actifs, ben, ce n'est pas universellement accepté. Alors oui, Tesla, on peut acheter une Tesla en Bitcoin, et puis il y a trois distributeurs qui se courent les uns derrière les autres dans trois pays différents. Mais aujourd'hui, ce n'est pas universellement accepté. Donc si vous voulez, le terme de crypto-monnaie est déjà trompeur. Ça n'est pas, à l'heure actuelle, des monnaies. Peut-être que ça changera. Il faut faire la distinction entre la blockchain, la technologie qui sous-tend les cryptos et les cryptos en elles-mêmes qui aujourd'hui sont des cryptos actifs, autrement dit des actifs financiers ultra volatiles et archi spéculatifs. Voilà ce que c'est aujourd'hui. Et donc, le présenter comme une monnaie, c'est trompeur. Il y a des fatwas qui ont été rendues là récemment. Le Conseil national religieux indonésien On a le Mufti Takri Osmani aussi, qui est responsable de la UIFI au Bahreïn, qui est une instance qui édicte des normes pour la finance islamique à l'échelle mondiale, qui ont déclaré que, en l'état, ces crypto-actifs étaient illicites au regard de la loi musulmane. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils comportent une grande part d'aléas, de risques et justement de spéculation dans ce qu'on appelle le messir, le jeu de hasard. Et on le voit, hein, y a beaucoup de personnes qui ont perdu. Alors, on nous montre toujours les gens qui, effectivement, oui, le Bitcoin, il a 60 000 dollars. Il y a 15 ans, ça valait 30 euros. C'est vrai. Mais il y a énormément de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent aussi avec cela, parce que c'est très risqué. Et en plus de ça, tout le Darknet utilise ces actifs. Donc, ça sert aussi à financer de l'illicite, les activités illicites, et donc de ce point de vue-là, c'est immoral. Voilà, pour les cryptos. Philippe, pardon, sur la crypto, c'est juste parce que j'avais besoin de pousser, ça veut pas dire que le jugement est définitif sur des si vous voulez, par exemple, le café, au début, les oulémas l'ont déclaré comme étant illicite au regard de l'islam en raison de ses vertus excitantes. Et puis quand ils se sont rendus compte que c'était pas nocif pour la santé, eh bien l'interdit a été levé. Pour le tabac, c'est l'inverse. Tant qu'on n'avait pas la preuve scientifique que c'était mauvais pour la santé et le corps humain, c'était simplement déconseillé. Et une fois qu'il a été prouvé que le tabac causait du cancer, il a été interdit au regard de la loi humaine. Donc pour les cryptos, si demain on a des crypto-monnaies, des vraies crypto-monnaies qui sont universellement acceptées, qui permettent de favoriser les échanges, etc., ce sera tout à fait licite. C'est juste qu'aujourd'hui, on considère que c'est trop risqué pour les gens et qu'ils peuvent y laisser des plumes, en fait. Hein, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, ça a été considéré comme illicite. Alors, je vais en profiter pour aborder rapidement la notion de WAQF, qu'on pourrait traduire par fondation pieuse. Donc, c'est quoi un WAQF ? En fait, on va avoir un donateur qui va céder, qui va immobiliser un bien. Et ce bien WAQF, en fait, c'est une donation qui est faite à perpétuité à Dieu. Et le donateur, en fait, va rechercher la satisfaction divine. Et en fait, ce qui va être donné en aumône, c'est l'usufruit de l'immobilisation, du bien immobilisé. C'est-à-dire, il y a un démembrement de propriété. La nue propriété, c'est pour Dieu. Et l'usufruit, c'est pour les gens. Alors après, il y a différentes typologies d'AOKAF, c'est le pluriel de WAQF. Il peut être géré par la famille, il peut être un WAQF familial, il peut être étatique. Et donc, il y a différentes formes. C'est-à-dire que c'est un régime qu'on a beaucoup trouvé dans les pays musulmans, notamment les Ottomans, il y en avait plein. Ça pouvait être une madrasa, une école coranique, un hôpital, un puits, des terres agricoles, etc., etc. Alors déjà, deux remarques là-dessus.
Ça existait en France, les fondations.
On transforme l'usufruit en donation, en aumône à perpétuité. Donc ça veut dire que si la terre entière était un WAQF, eh bien tout ce qu'elle produirait serait gratuit pour les bénéficiaires. Et ça, de toute façon, l'islam le dit, hein, le don est meilleur que l'échange, que le commerce. Ok, l'islam interdit l'usure et autorise le commerce, mais ce que nous dit l'islam, c'est que la charité, le don, c'est supérieur. Puis en plus, une aumône n'a jamais diminué une richesse. Maintenant, la question du cash WAQF, ben c'est est-ce que quelque part on pourrait immobiliser, moi par exemple, je fais fortune, j'ai une fondation, j'ai 100 milliards de dollars, je crée un cash WAQF, je vais immobiliser 100 milliards de dollars, alors il va y avoir un WAQIF, quelqu'un qui va le gérer après moi, puisque moi je serai mort, et le but, ben, ce sera l'usufruit de ce capital. Donc, ce capital va être investi, je sais pas moi, dans de l'immobilier, des entreprises, il va être investi. Et le but, ce sera de faire l'aumône, eh bien, des fruits produits par cette immobilisation. Et donc, l'idée, c'est que bah, quand je serai mort, eh bien, dans l'au-delà, je continuerai à faire tourner mon compteur de bonnes actions au travers de ce WACF. Et si vous voulez, le WACF avec la Zakat, c'est véritablement deux instruments apportés par l'économie islamique qui peuvent, je dirais, répondre à de nombreuses problématiques contemporaines. Alors, l'équivalent, ça pourrait être les fondations, mais bon, les fondations aujourd'hui telles qu'on les connaît, c'est surtout des outils d'optimisation fiscale. Là, on parle véritablement d'une sincérité, j'ai envie de dire, hein, de la part du donateur qui, en faisant cela, recherche l'agrément divin.